Bonjour à toutes et à tous. Grand plaisir pour moi d'être avec vous. Donc, je connais la majorité d'entre vous. Je vous salue bien encore aujourd'hui et très content de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Vous avez les salutations aussi de mon épouse Priscilla, qui est enceinte de presque 8 mois maintenant. Donc, ça va arriver. Donc, elle ne peut pas venir encore aujourd'hui. Joël, tu peux rallumer la lumière. Merci. Ah, ça fait quelque chose la lumière, n'est-ce pas? Alors à Madagascar, on a ce qu'on appelle le délestage. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des coupures de courant pendant des heures. Et à Madagascar, on a ça. Alors le principe, c'est qu'il n'y a pas assez de puissance qui est injectée dans le réseau, donc il coupe une grande partie de la ville pendant parfois très 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 longtemps. Et à ce moment-là, vous êtes perdu. Vos capacités sont limitées, vous n'arrivez pas à agir, vous devez agir dans l'ombre, etc., rallumer les bougies. Donc vraiment, c'est vous êtes limité dans vos mouvements, et dès que la lumière revient, c'est la libération, c'est la fête, c'est la joie, etc. Et aujourd'hui, on va parler d'une lumière, mais qui est plus importante que le retour de la coupure de courant. Et on va aussi parler de ténèbres qui sont plus difficiles que des délestages. Et notre humanité a besoin, encore aujourd'hui, d'entendre qu'il y a une lumière pour l'humanité qui est disponible, mais qu'il y a aussi des ténèbres qui sont là, qui agissent, qui font du mal à chacune et à chacun. Et vous êtes dans cette série actuellement de revoir quelques textes prophétiques de l'Ancien Testament qui annoncent justement l'arrivée, la semaine dernière, de ce que j'ai compris, c'était Ésaïe chapitre 7, la Vierge ou la jeune fille sera enceinte, donc un signe qui a été donné. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans Ésaïe chapitre 9 que nous a lu Francis, et nous parlons de cette lumière, une lumière importante. Et j'ai vraiment envie que nous puissions entendre que cette lumière qui a été annoncée il y a 2700 ans, qui a été accomplie, vous le savez, hein, nous nous apprenons rien, il y a 2000 ans, aujourd'hui encore, il y a un appel qui est très fort, qui est crié pour que les peuples qui marchent dans les ténèbres entendent qu'il y a une lumière. Vous avez eu la chance la semaine dernière d'être remis un petit peu dans le contexte de ce passage de Ésaïe. Donc on se situe dans la période d'un roi, le roi Akaz, qui a des ennemis autour de lui, qui a abandonné l'Éternel. Et je ne sais pas si vous voyez un petit peu la carte d'Israël en ce temps-là, mais vous avez donc dans le nord, vous avez le royaume du nord, qui est aussi appelé le royaume d'Israël, et vous avez en dessous le royaume de Juda, où les descendants de David ont tenu le trône. Et donc Israël est divisé en deux, le peuple de Dieu est divisé en deux, et Ésaïe parle d'abord au royaume de Juda, à Akaz. Mais finalement, la prophétie qu'il est en train de nous donner ici concerne aussi le peuple d'Israël dans son ensemble. Puisque ici, on a pris le temps de lire les versets précédents, au verset 23, parce que justement, il va mentionner des territoires, Zabulon et Nephtali, qui eux sont plutôt dans le nord, et ce sera dans la Galilée de Jésus-Christ. Donc, trois parties que je vous propose dans ce message. La première, c'est de voir la promesse de cette lumière qui vient chasser les ténèbres. La deuxième, c'est voir qu'il y a de la joie et de la paix à cause de la fin d'une oppression. Et enfin, nous verrons que celui qui permet tout cela, celui qui permet la réalisation de cette promesse et qui permet la fin de l'oppression, c'est le fameux Messie. Et je vais encore prier. Notre Dieu, notre Roi, merci pour cet appel que tu nous fais, de venir à toi, de nous tourner vers toi cet après-midi, d'écouter ta parole pour recevoir ce que tu as à nous dire et nous rapprocher de toi, mieux t'aimer, mieux te servir aussi, mieux aimer nos frères et sœurs, mieux aimer celles et ceux qui nous entourent, mieux aimer ce monde. Nous comptons sur ta grâce pour que ton appel soit entendu, pour que nous puissions prendre conscience qu'il y a une lumière qui veut briller dans les ténèbres. Et qu'aujourd'hui encore, cette promesse est entendue. En ton nom. Amen. Israël, le roi Akaz et tout son peuple, Juda, voulaient s'appuyer pour faire face à ses ennemis, donc ses ennemis, la Syrie, là plus loin, Syrie, qui avait déjà pour capitale Damas. Et Israël, finalement, le royaume du Nord, ses anciens frères, qui étaient finalement devenus des ennemis, eh bien, Akaz voulait s'appuyer sur L apostrophe Assyrie. Ça va, vous suivez? Grande puissance de ce temps-là, et l'Éternel leur reproche de ne pas être venu chercher en lui leur soutien. Et l'Éternel leur dit, oui, L apostrophe Assyrie va détruire et va conquérir là plus loin Syrie et aussi Israël. Mais ce sera aussi pour votre malheur. Ce grand peuple puissant sur lequel vous comptez, certes, il va remporter des victoires. Et vous savez que la première grande attaque du royaume du Nord, c'est vraiment l'apostrophe Assyrie qui l'a faite. Mais à travers le prophète, il dit, ce sera aussi pour votre malheur. Et c'est pour ça que au verset 22 du chapitre 8, il est dit, il regardera vers la terre, il y verra que détresse, obscurité et sombre angoisse, il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Vous avez voulu vous appuyer sur quelqu'un d'autre que l'Éternel. Vous êtes allé chercher des idoles aussi. Vous êtes allé chercher des devins et vous serez dans les ténèbres. Et effectivement, c'est ce qu'ils vont vivre malheureusement. Mais il y a une espérance. Et une espérance générale que le prophète ici veut donner à tout le peuple. Et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est deux versets. Toutefois, donc chapitre 8, verset 23 dans les versions second 21, et si vous avez la second 1910, ça sera le premier verset du chapitre 9. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, là où il y a des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, donc c'est territoire du Nord, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Et c'est vrai que ces deux zones étaient des zones frontalières avec les peuples étrangers, et très souvent, ils étaient l'objet de conquêtes, l'objet, dès que les ennemis rentraient dans Israël, et bien ils passaient par ces zones-là, et c'était les premières victimes, et aussi les peuples présents étaient mélangés, il n'y avait pas que des Juifs, et donc il y avait un mépris de la part du peuple d'Israël, du peuple pur de ces zones-là, et bien cette région-là verra la gloire. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre, de la mort. Une lumière a brillé. Voilà la promesse que Esaïe fait à ce peuple d'Israël, qui connaît maintes et maintes fois des oppressions et qui entend ici qu'il y a une espérance qu'ils peuvent avoir. Une lumière parmi les ténèbres les plus profondes, les ténèbres, la région de la mort, les termes utilisés sont durs, sont forts, sont profonds. On est dans une région de la mort. Mais il y aura une lumière qui va briller. Pas juste comme on l'a vécu tout à l'heure, une lumière qui arrive et ouf, ça fait du bien. J'arrivais pas à lire la Bible. Mais quelque chose qui va redonner une espérance. Quelque chose qui va donner quelque chose de bon, qu'on verra tout à l'heure. Quelque chose de libérateur. Cette notion de la lumière, vous le savez, est très développée dans la parole de Dieu, en particulier à travers la personne de Jésus-Christ. Et finalement, ce texte que nous venons de lire est clairement identifié à Jésus-Christ. Lorsque nous prenons Matthieu, chapitre 4, si vous avez vos Bibles avec vous, je vous invite à prendre Matthieu, chapitre 4. Et on voit ici, verset 12, que c'est le début du ministère de Jésus. Et où est-ce que Jésus va commencer son ministère? Où est-ce que le Sauveur puissant que vous et moi nous aimons commencera son ministère? Eh bien, lisons la suite. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Jésus vient de vivre les grandes tentations dans le désert, et maintenant il va commencer son ministère. Il quitta Nazareth, qui est déjà dans le nord, et vint habiter à Capernaum, et nous nous retrouvons toujours encore dans cette zone, dans le nord. Ville située près du lac, écoutez bien, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Ah ah, on connaît ces noms-là. Pourquoi ? Tout simplement, le verset 14 nous le dit, « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé, ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée, la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » Et qu'est-ce que c'était que cette lumière ? Regardez verset 17. « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jésus-Christ est la lumière qui a été annoncée par Ésaïe. Et le message de Jésus-Christ permet de rentrer dans cette lumière. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Changez d'attitude, changez de monde, changez d'environnement. Venez à moi. Jésus-Christ est cette lumière. C'est Siméon qui proclamera cela lorsque les parents de Jésus viendront présenter Jésus lorsqu'il était petit au temple, comme le veut la loi. En Luc chapitre 1, nous le voyons. Luc chapitre 2, et je lis verset 25. « Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Vous connaissez cette phrase « Je suis la lumière du monde ». C'est Jésus qui dira cela en Jean chapitre 8, verset 12. « Si quelqu'un me suit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et Jean développera vraiment cette dynamique de la lumière que Jésus apporte au milieu des ténèbres. Et beaucoup de textes de Jean le diront, mais notamment celui-ci, comme vous connaissez, « Je suis venu, Jean chapitre 12, verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jésus est cette lumière venue sauver l'humanité. Jésus est cette lumière venue arracher l'humanité de ses plus profondes ténèbres. Jésus est cette lumière qui, pour le peuple d'Israël, était déjà annoncée et que malheureusement ils ont rejetée parce qu'ils ne l'ont pas reconnue. Mais aujourd'hui encore, Jésus veut être cette lumière pour toutes celles et tous ceux qui vivent dans les ténèbres et qui reconnaissent qu'ils vivent dans les ténèbres. Alors, quelle a été la libération que cette lumière a apportée d'après ce texte ? Revenons à Ésaïe chapitre 9 et nous voyons le verset 2 jusqu'au verset 4. « Tu rends la nation nombreuse. » Tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrées aux flammes pour être réduits en cendres. Il y a une libération qui va apporter la paix et la joie. Il y a une victoire ici, militaire a priori, qui semble apporter une victoire pour le peuple et la paix. Le peuple va être dans la joie, le peuple va se développer. C'est vrai que le nombre ici pour le peuple d'Israël est toujours très important. Nous sommes un grand peuple ou un petit peuple ici. Tu rends la nation nombreuse et il y aura de la joie dans ce peuple. Pourquoi le verset 3 ? Eh bien, l'oppression, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait seront brisés. Toute l'oppression, et là ce que l'on comprend quand on lit ce texte par rapport au contexte de nos amis, toute l'oppression de ces peuples étrangers. Et beaucoup de nos pays ont été soit colonisés, soit conquis, et on sait pour beaucoup ce que ça veut dire que d'être sous le joug d'une population étrangère. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de pays dans l'histoire qui sont dominés par d'autres nations, et ils ont moins de droits, ils ne peuvent pas choisir leur chef, ils ne peuvent pas choisir l'orientation de leur peuple, ils payent des tributs, et parfois il y a des injustices flagrantes, on peut tuer parfois même sans impunité, si nous sommes du parti du dominateur et que nous tuons des gens qui sont dominés, eh bien il est fort probable que nous n'ayons aucune poursuite. Eh bien, toutes ces choses-là, pour le peuple d'Israël, seront enlevées. La guerre, les guerres, toutes chaussures portées dans la bataille, tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits ensemble. Tout ce qui est relatif à la bataille, à la guerre, à la domination militaire seront supprimés. Et c'est le Messie qui va apporter cela. Et alors, c'est quelque chose que, oui, Dieu a promis pour son peuple. Et nous savons que ce Messie, Jésus-Christ, un jour dominera. Un jour, il dominera la terre. Un jour, il rendra justice. Il apportera une véritable victoire de Dieu sur cette terre. Mais aujourd'hui, il faut le dire, ce n'est pas entièrement, pleinement le cas. Il est dit dans Hébreux, lorsque Hébreux va citer le fils de David, le Messie, qu'est-il l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Tu as mis tout sous ses pieds. Et après, l'auteur aux Hébreux dira, nous voyons que tout n'est pas encore sous ses pieds. Mais un jour, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et la parole de Dieu nous annonce qu'un jour, il dirigera cette terre avec justice, avec équité. Et un jour, Dieu dominera partout, et la justice règnera, et la vérité règnera, et la bonté règnera. Ce moment arrivera. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus-Christ est arrivé ? Eh bien, il y a eu le début de la manifestation de ce règne. Parce qu'en fait, ce que Jésus a fait, c'est qu'il n'a pas d'abord dominé politiquement, pas dominé militairement. Mais il a d'abord voulu être celui qui nous libérait, nous apportait la libération d'une oppression bien plus subtile que l'oppression militaire. C'est l'oppression du péché. Jésus est venu briser le joug du péché. Jésus est venu libérer celles et ceux qui vivent sous l'emprise du mal. Voilà la première libération que Jésus est venu apporter. Nous l'avons lu tout à l'heure sur certaines des promesses, mais Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du péché. Et une des citations encore qui seront reprises dans les évangiles et que Ésaïe va mentionner, c'est celle que nous trouvons en Ésaïe chapitre 61, qui sera lue par Jésus-Christ lorsqu'il sera à la synagogue. En Luc chapitre 4, je vous le lis en Ésaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la libération et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ce que Jésus dira. Une fois qu'il aura lu ce texte. Allez-y. Amen. Regardez, Luc chapitre 4, verset 20. Après avoir lu cela, Jésus roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Le libérateur est là. Tous les hommes et toutes les femmes qui vivaient dans les ténèbres du péché, de l'oppression spirituelle, peuvent désormais être libérés. Quelle espérance, les amis, pour le peuple. Quelle joie quand ils ont entendu ça. Alors, pas dans cette synagogue, ils ont voulu tuer Jésus à la fin, parce qu'ils ne l'avaient pas reconnu. Mais quelle joie pour le peuple, et quelle joie depuis 2000 ans. Et j'espère quelle joie pour chacune et chacun, aujourd'hui, dans cette salle. La véritable libération est là. Nous pouvons désormais être libérés des conséquences de notre péché. Nous pouvons être désormais libérés de la condamnation de ce qui suit notre péché. Nous pouvons être désormais être libérés de l'oppression du péché. Car celui qui n'est pas en Jésus, malheureusement, est entraîné par le péché. Et lorsque vous regardez autour de nous, dans ce monde, je pense que vous pouvez comprendre et dire, oui, ce monde est dans les ténèbres. Si les ténèbres sont là où prolifère le péché et l'absence de Dieu, l'absence de connaissance de l'Éternel. Les amis, en cette période assez particulière pour notre monde, hein, n'est-ce pas ? En cette période un peu particulière où ça a l'air quand même d'aller de travers un peu partout. Même un des plus grands pays de ce monde, aux États-Unis, qui étaient censés avoir toujours des super élections, on a l'impression que ça ne veut pas s'arrêter. Et certains commentateurs faisaient un petit peu de l'ironie en disant ben, on dirait que ce qui est en train de se faire là, c'est ce qu'ils critiquaient de ce qui se passait dans d'autres pays d'Afrique, par exemple. Et donc, il y a certaines qui disaient eh bien, on va inverser les rôles. Donc, le délégué du Congo a été envoyé aux États-Unis pour pouvoir aider Donald Trump et Joe Biden à trouver un accord et à respecter le processus démocratique. Bref, même là-bas, et on savait de toute façon que le péché aussi était là-bas, en France, on voit. On ne peut pas dire que la paix est là, n'est-ce pas ? On ne va pas dire que les gens s'aiment bien. Il y a les anti-masques et les pour-masques. Il y a ceux qui sont anti-Macron et pour-Macron. Et les tensions sont palpables. Et on voit parfois même, et ça m'interpelle, la haine et la rage qui se déversent sur les réseaux sociaux. Parce que je ne suis pas vraiment vu, et donc je peux décharger toute ma haine et toute ma rage contre ceux qui pensent qu'il ne faut pas porter de masque. Ou contre telle ou telle personne. Et là encore, récemment, j'ai entendu, avant-hier, un jeune que je connais bien, qui m'a dit, mon meilleur ami vient de se suicider à cause du harcèlement qu'il a vécu sur les réseaux sociaux. Le péché est présent et prolifère. Et ce monde a besoin d'entendre, et vos amis ont besoin d'entendre qu'il y a une espérance. Une espérance qui va libérer, qui veut libérer ce monde de l'oppression du péché. De l'oppression de ce qui nous pousse à agir mal contre Dieu et à agir mal contre notre prochain. Ce monde est tout autant dans les ténèbres qu'était le peuple d'Ésaïe, à l'époque d'Ésaïe. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'oppression militaire, qu'on n'a pas d'ennemis reconnus, et encore aujourd'hui, on sait que même au niveau paix, on sait qu'on est encore dans des circonstances difficiles, avec le terrorisme, mais les ténèbres du péché sont bien plus profondes. Parce que non seulement ils font que nous pouvons détruire les relations les uns avec les autres, il faut que nous pouvons nous détruire nous-mêmes, mais surtout nous détruisons notre avenir éternel. Car il y a une condamnation que Dieu donne sur le péché, sur les actions mauvaises que nous pouvons accomplir. Mais à côté, il y a la lumière proposé par Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta relation avec le péché. Mais aujourd'hui, je t'annonce que Dieu veut te libérer de son oppression. Que tu sois finalement chrétien ou pas, parfois le péché peut prendre ou reprendre domination dans notre vie. Et comme nous l'avons lu dans Ésaïe chapitre 61, où que Jésus avait dit lorsqu'il a commencé son ministère, la première attitude pour rentrer dans la lumière, c'est la repentance. Ésaïe 61, c'est ceux qui reconnaissent qu'ils sont pauvres, pauvres spirituellement, qu'ils ont besoin d'aide. Revenons à Dieu dans la repentance, en demandant pardon au Seigneur. Nous avons eu la chance de chanter tout à l'heure ce chant magnifique qui nous conduit à la repentance. Eh bien, mais qu'il en soit ainsi encore une fois. C'est ce qui nous libérera de cette oppression du péché. De revenir au Seigneur et de lui dire « Pardon, Seigneur, pardon. » Et alors nous vivrons cette libération. Romains chapitre 8, verset 2. « La loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché. » 1 Pierre 2, 24. « Lui qui a porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. » Parce que c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Jean dira, « Je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. » Il y a une victoire, il y a une libération que vous et moi, nous sommes appelés à vivre, mais que nous sommes aussi appelés à transmettre autour de nous. Ne la gardons pas juste pour nous-mêmes, mais beaucoup d'hommes et de femmes autour de nous sont encore dominés par cette oppression. Et vous et moi, nous connaissons la clé de cette libération. Je vous rappelle de ce couple dont on m'avait parlé le mois dernier, qui se déchirait. L'homme battait sa femme et parfois même la trompait. Et elle avait un semblant de foi. Elle se rapprochait de Dieu, mais elle était encore un petit peu à côté parce que quand elle priait, elle disait « Seigneur, tue mon mari. » Elle avait de la haine aussi. Et elle, dans ses prières, finalement, elle voulait juste que Dieu la débarrasse de son mari. Mais merci Seigneur. Elle a pu vivre cette repentance. Elle a pu vivre cette foi en Jésus qui est mort sur la croix. Et elle en a été libérée. Et elle a commencé à aimer son mari. Et ce qui est formidable, c'est que son mari aussi a été libéré. Il a cru lui aussi en Jésus. Il est sorti de ces ténèbres profondes. Et vous savez, deux choses qui ont été marquantes. La première, c'est qu'ils ont tellement été touchés par l'amour de Jésus qu'ils ont commencé à adopter des enfants défavorisés ou en situation difficile ou des orphelins. Et ils en sont allés jusqu'à 16 enfants. Vous imaginez, 16 enfants adoptés. Pas 4, pas 12, 16. Parce qu'ils avaient tellement l'amour et la grâce de Dieu. Mais ce qui était très marquant, c'était que cette femme, quand elle parle de son mari, elle dit « Aujourd'hui, vous savez, la personne la plus sainte que je connais sur la terre, c'est mon mari. » Alors, peut-être qu'elle est un peu biaisée dans son analyse, mais l'amour qu'elle avait pour son mari a été transformé par la présence de Jésus-Christ dans sa vie. Merci Seigneur. Et c'est ce qu'il peut faire dans ta vie. Et c'est ce qu'il veut faire, lui, Jésus, le Messie, dans la vie de celles et ceux qui t'entourent. Alors, venons à cette lumière, réjouissons-nous et soyons conscients que sa victoire est totale sur le péché et un jour, elle sera totale sur cette terre. Et il règnera pleinement, lui, le Fils de Dieu. Et justement, c'est comme ça que Ésaïe va terminer ce temps de prophétie. Il va présenter pourquoi est-ce que cette oppression sera absolument détruite. Pourquoi est-ce que cette lumière va briller et va envahir les ténèbres? Pourquoi est-ce que ceux qui étaient dans le territoire de la mort seront complètement éclairés? Parce que celui qui apporte la lumière n'est pas n'importe qui. Celui qui vient n'est pas n'importe qui. Verset 5. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et nous, merci Seigneur, de ce côté de l'histoire, nous comprenons et nous savons c'est qui. Et nous faisons le lien avec Noël, avec les anges qui sont allés voir les bergers et qui ont dit « Il vous est né !» Dans la ville de David, un enfant qui est le Christ, le Sauveur. Et alors, qu'est-ce qui est dit sur cet enfant qui nous est né? Plusieurs choses. Premièrement, la souveraineté reposera sur son épaule. C'est lui qui aura la domination. C'est lui qui sera le roi. C'est lui qui gérera et dominera et dirigera. Ensuite, il a plusieurs caractéristiques. Il est merveilleux conseiller. Il est Dieu puissant. Il est Père éternel. Il est Prince de paix. Merveilleux conseiller, finalement, il aura l'intelligence et la sagesse de l'Éternel. On le voit deux chapitres après, au verset 2 de Ésaïe 11. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte. Donc Jean chapitre 3, Jean chapitre verset 34, il est traduit que Dieu a, que celui que Dieu a envoyé parle par les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure en parlant de Jésus. Plein de conseils, plein de sagesse, plein d'intelligence, l'intelligence de Dieu lui-même. Dieu est son propre conseiller, c'est lui qui dirige la terre avec sagesse et intelligence, mais aussi il nous fait profiter de cela. Merci Seigneur, il est le merveilleux conseiller, il peut être ton merveilleux conseiller. Celui qui t'accompagne à chaque étape de ta vie. Comment faire Seigneur dans telle étape? Quel choix prendre? Quelle orientation prendre? Comment faire pour mieux marcher avec toi? Comment faire pour mieux vivre selon ta volonté? Ce merveilleux conseiller peut te le dire. Il est le Dieu puissant. Alors c'est interpellant, hein, de dire d'un homme qu'il est le Dieu puissant. Nous le savons, que Jésus-Christ est plus qu'un homme, qu'il est le Fils de Dieu lui-même, qu'il est, vous l'avez vu il y a deux semaines, qu'il est finalement Emmanuel, Dieu avec nous. Que Jésus qui vient sur la terre, c'est Dieu qui vient sur la terre, s'incarner. Et il est puissant parce qu'il est capable de faire ce qu'il a promis. Il est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Et cette expression, elle est vraiment associée à Dieu. Lorsque nous le voyons dans l'Ancien Testament, c'est toujours Dieu qui est ce Dieu puissant. Père éternel, Jésus-Christ, appelé Père, ça fait un peu bizarre pour nous qui connaissons la Trinité. Mais dans la notion de Père, il y a la notion de celui qui prend soin, qui est paternel, qui donne au moment voulu, qui apporte en fonction des besoins, qui est notre berger, qui sait ce dont notre âme a besoin et qui nous fait reposer dans de verts pâturages. C'est celui qui pourvoit à nos besoins. C'est celui qui prend soin de nous, tel un père prend soin de ses enfants. Et c'est le Père éternel, parce que ce qu'il fait pour nous n'aura jamais de fin. Et son accompagnement sera parfait. Et enfin, presse de paix, parce que ce qu'il est venu apporter, c'est la réconciliation d'avec Dieu. C'est la vraie paix, la paix intérieure. Je vous donne ma paix, dira-t-il à ses disciples. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Il est venu apporter une paix sans fin. Et c'est les textes près, juste en dessous, qui le diront, verset 6. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Alors il est vrai que Jésus aujourd'hui n'est pas pleinement roi de toute l'humanité, parce que beaucoup de l'humanité ne croit pas en Jésus, ne reconnaît pas Jésus, ne voit pas en Jésus leur roi et n'obéissent pas en Jésus. Mais ce souveraineté s'étend quand même. Et vous savez comment ? Par vous et moi. Vous et moi, nous sommes la manifestation de la souveraineté de Jésus-Christ sur la terre. Parce que vous et moi, nous voulons reconnaître, et j'espère que c'est le cas de chacune et chacun, que Jésus est notre roi, n'est-ce pas ? Que Jésus est notre autorité. La parole de Dieu dira que Jésus-Christ a été donné pour chef suprême à l'église de sa mort. Chef suprême à l'église de la nuit. Chef suprême à l'église avec un grand E. Et qu'est-ce que ça veut dire, chef suprême ? Une fois, quelqu'un avait utilisé l'image, est-ce que Jésus est comme la reine d'Angleterre ? La reine d'Angleterre, quand elle arrive en Angleterre, à un endroit, tout le monde l'applaudit. Ouais, on veut lui faire coucou, on aime bien. Et puis mon épouse, quand j'étais parti en Angleterre pour une mission, elle était trop contente que je lui ramène des photos de la famille royale, vous savez. Oh, c'est super. Et puis il y avait, je ne sais plus combien de milliards de gens, je crois que c'était 1 milliard, non, qui avaient suivi le mariage du fils de la reine, du petit-fils de la reine d'Angleterre. Donc, il y a vraiment un engouement pour cette personne. Mais son véritable pouvoir, quel est-il? Est-ce que véritablement l'Angleterre obéit à la reine? Est-ce que c'est elle qui décide des lois? Est-ce que c'est elle qui décide de ce qui va être fait? Pas vraiment. Elle a un rôle représentatif. Et vous et moi, nous ne voulons pas faire de Jésus-Christ juste une représentation, n'est-ce pas? Où on est content de l'applaudir quand on voit Jésus, c'est super. Mais son autorité absolue dans notre vie, finalement, n'est pas réelle. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons dire, Seigneur, tu es le chef suprême de notre Église, le chef suprême de ma vie. Pourquoi m'appelez-vous maître et Seigneur si vous ne faites pas ce que je dis? Alors, frères et sœurs, vous et moi, nous connaissons qui est ce Messie qui a été présenté. Alors, recevons-le tel quel. Vivons en conséquence. En premier lieu, venons à sa lumière. Ne nous laissons plus opprimer par le péché. Laissons la lumière de Jésus-Christ nous remplir. Ne débarrassons-nous de toute haine. Débarrassons-nous de toute rancœur, de toute amertume. Parce qu'il dit dans la parole de Dieu que celui qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Alors, pardonnons. Venons à Dieu et pardonnons les uns et les autres. Vivons dans notre vie, dans notre Église, les règles du royaume qui nous ont été données. Faisons de Jésus-Christ notre Sauveur, celui qui nous libère du péché, nous libère de ses conséquences, nous libère de son oppression, et il veut l'être. Il n'y a aucun péché que Jésus-Christ ne peut pas vaincre et n'a pas vaincu. Donc je vous encourage vraiment à ne rester dans aucun péché, aucune attitude qui déshonore votre Seigneur. Quand bien même vous, cela fait des années que vous luttez contre cela, croyez profondément qu'aujourd'hui Jésus-Christ veut être la lumière de votre vie. Et diffusons cette lumière. Entendons que ce cri d'une lumière qui brille dans les ténèbres, elle n'est pas que pour nous, elle est pour le monde dans lequel vous et moi nous vivons. Et j'étais très touché, très encouragé que plusieurs témoignages tout à l'heure en open mic concernait le témoignage que nous voulons donner à ce monde. Et oui, encore aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes sont dans les ténèbres, et vous et moi, nous connaissons la lumière qui peut les en sortir. Comme ce couple, qui était absolument inattendu, peut-être que certains disaient ils sont trop perdus ces deux-là, on va les laisser là-bas. Non, il fallait que des gens leur partagent cela. Et je vais terminer juste avec cette... voilà. Ce royaume se répand, c'est Jésus-Christ qui le répand. Et donc faites confiance que lorsque vous allez vous engager dans ce chemin, d'apporter la lumière, déjà dans votre vie, mais aussi autour de vous, eh bien entendez la parole de Jésus-Christ qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, et leur enseignant à mettre en pratique tout ce que je vous ai enseigné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, prions encore, réfléchissons encore à des domaines où voulons voir la lumière de Jésus-Christ briller et remercions-le parce que cette lumière continue à s'étendre dans les plus ténèbres, les plus profondes. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu cries encore aujourd'hui. Venez à la lumière. Je suis la lumière. Merci pour cette lumière qui a brillé dans les ténèbres, lorsque tu es venu sur cette terre. Et merci parce qu'encore aujourd'hui, tu veux briller dans nos cœurs déjà, aujourd'hui. Et tu connais peut-être les ténèbres de certains cet après-midi qui ont besoin de se rappeler que tu veux nous libérer des plus profondes ténèbres par la repentance, par l'acceptation du pardon que tu nous accordes en mourant sur la croix. Et permets-nous aussi d'être de celles et ceux qui crions. Il y a une lumière autour de nous. Parce que ce monde dans lequel nous vivons en a tellement besoin, Jésus. Dieu Tout-Puissant, que ta lumière continue à se répandre. Que beaucoup d'hommes et de femmes viennent à toi. Et que l'Église de Saint-Maur soit vraiment un vecteur puissant de la diffusion de cette lumière. Amen.